Chapitre 21 et suivant. Cependant, Julie Gamelin, vêtue de son carrick vert bouteille, allait tous les jours dans le jardin du Luxembourg, et là, sur un banc au bout d'une allée, attendait le moment où son amant paraîtrait à une des lucarnes du palais. Ils se faisaient des signes et échangeaient leurs pensées dans un langage muet qu'ils avaient imaginé. Elle savait, par ce moyen, que le prisonnier occupait une assez bonne chambre, jouissait d'une agréable compagnie, avait besoin d'une couverture et d'une bouillotte, et aimait tendrement sa maîtresse. Elle n'était pas seule à épier un visage aimé dans ce palais changé en prison. Une jeune mère, près d'elle, tenait ses regards attachés sur une fenêtre close, et dès qu'elle voyait la fenêtre s'ouvrir, elle élevait son petit enfant dans ses bras, au-dessus de sa tête. Une vieille dame, voilée de dentelle, se tenait de longues heures immobile sur un pliant, espérant en vain apercevoir un moment son fils, qui, pour ne pas s'attendrir, jouait au palais dans la cour de la prison jusqu'à ce qu'on eût fermé le jardin. Durant ces longues stations sous le ciel gris ou bleu, un homme d'un âge mûr, assez gros, très propre, se tenait sur un banc voisin, jouant avec sa tabatière et ses breloques, et dépliant un journal qu'il ne lisait jamais. Il était vêtu, à la vieille mode bourgeoise, d'un tricorne à galons d'or, d'un habit zinzolin et d'un gilet bleu brodé d'argent. Il avait l'air honnête. Il était musicien, en jugeait par la flûte dont un bout dépassait sa poche. Pas un moment il ne quittait des yeux le faux jeune garçon. Il ne cessait de lui sourire et, le voyant se lever, il se levait lui-même et le suivait de loin. Julie, dans sa misère et dans sa solitude, se sentait touchée de la sympathie discrète que lui montrait ce bonhomme. Un jour, comme elle sortait du jardin, la pluie commençant à tomber, le bonhomme s'approcha d'elle et, ouvrant son vaste parapluie rouge, lui demanda la permission de l'en abriter. Elle lui répondit doucement, de sa voix claire, qu'elle y consentait. Mais au son de cette voix, et averti peut-être par une subtile odeur de femme, il s'éloigna vivement, laissant exposer à la pluie d'orage la jeune femme qui comprit, et malgré ses soucis, ne put s'empêcher de sourire. Julie logeait dans une mansarde de la rue du Cherche-Midi et se faisait passer pour un commis drapier qui cherchait un emploi. La citoyenne veuve Gamelin, persuadée enfin que sa fille ne courait nulle part de si grand danger que près d'elle, l'avait éloignée de la place de Thionville et de la section du Pont-Neuf, et l'entretenait de vivres de linge autant qu'elle pouvait. Julie faisait un peu de cuisine, allait au Luxembourg voir son cher amant et rentrait dans son taudis. La monotonie de ce manège berçait ses chagrins, et comme elle était jeune et robuste, elle dormait toute la nuit d'un profond sommeil. D'un caractère hardi, habituée aux aventures et excitée peut-être par l'habit qu'elle portait, elle allait quelquefois, la nuit, chez un limonadier de la rue du Four, à l'enseigne de la Croix-Rouge, que fréquentaient des gens de toutes sortes et des femmes galantes. Elle y lisait les gazettes et jouait au tric-trac avec quelques courtauds de boutique ou quelques militaires qui lui fumaient sa pipe au nez. Là, on buvait, on jouait, on faisait l'amour, et les rixes étaient fréquentes. Un soir, un buveur, au bruit d'une chevauchée sur le pavé du carrefour, souleva le rideau et, reconnaissant le commandant en chef de la garde nationale, le citoyen Henriot, qui passait au galop avec son état-major, murmura entre ses dents « Ah, voilà la bourrique à Robespierre !» À ce mot, Julie poussa un grand éclat de rire. Mais un patriote à moustache releva vertement le propos. « Celui qui parle ainsi, s'écria-t-il, est un foutu aristocrate que j'aurais plaisir à voir éternuer dans le panier à Samson. Sachez que le général Agnew est un bon patriote qui saura défendre au besoin Paris et la Convention. C'est cela que les royalistes lui pardonnent point. Et le patriote à moustache, dévisageant Julie qui ne cessait pas de rire. Toi, Blanc-Bec, prends garde que je ne t'envoie mon pied dans le derrière pour t'apprendre à respecter les patriotes. Cependant, des voix s'élevaient. Anneau est un ivrogne, un imbécile. Anneau est un bon jacobin, vive Anneau! Deux partis se formèrent. On s'aborda, les poings s'abattirent sur les chapeaux défoncés, les tables se renversèrent, les verres volèrent en éclats, les quinquets s'éteignirent, les femmes poussèrent des cris aigus. Assaillie par plusieurs patriotes, Julie s'arma d'une banquette, fut terrassée, griffa, mordit ses agresseurs. De son carré couvert et de son jabot déchiré, sa poitrine haletante sortait. Une patrouille accourut au bruit et la jeune aristocrate s'échappa entre les jambes des gendarmes. Chaque jour, les charrettes étaient pleines de condamnés. Je ne peux pourtant pas laisser mourir mon amant, disait Julie à sa mère. Elle résolut de solliciter, de faire des démarches, d'aller dans les comités, dans les bureaux, chez des représentants, chez des magistrats, partout où il faudrait. Elle n'avait point de robe. Sa mère emprunta une robe rayée, un fichu, une coiffe de dentelle à la citoyenne Blaise, et Julie, vêtue en femme et en patriote, se rendit chez le juge Renaudin dans une humide et sombre maison de la rue Mazarine. Elle monta en tremblant l'escalier de bois et de carreaux et fut reçue par le juge dans son cabinet misérable, meublé d'une table de sapin et de deux chaises de paille. Le papier de tenture pendait en lambeaux. Renaudin, les cheveux noirs et collés, l'œil sombre, les babines retroussées et le menton saillant, lui fit signe de parler et l'écouta en silence. Elle lui dit qu'elle était la sœur du citoyen Chassagne, prisonnier au Luxembourg, lui exposa le plus habilement qu'elle put les circonstances dans lesquelles il avait été arrêté. Le représentant innocent et malheureux se montra pressante. Il demeura insensible et dur. Suppliante à ses pieds, elle pleura. Dès qu'il vit des larmes, son visage changea. Ses prunelles d'un noir rougeâtre s'enflammèrent et ses énormes mâchoires bleues remuèrent comme pour ramener la salive dans sa gorge sèche. Citoyenne, on fera le nécessaire, ne vous inquiétez pas. Et ouvrant une porte, il poussa la solliciteuse dans un petit salon rose où il y avait des trumeaux peints, des groupes de biscuits, un cartel, des candélabres dorés, des bergères, un canapé de tapisserie décoré d'une pastorale de boucher. Bon, Julie était prête à tout pour sauver son amant. Renaudin fut brutal et rapide. Quand elle se leva, rajustant la belle robe de la citoyenne Élodie, elle rencontra le regard cruel et moqueur de cet homme. Elle s'en dit aussitôt qu'elle avait fait un sacrifice inutile. Vous m'avez promis la liberté de mon frère, dit-elle. Il ricana. Je t'ai dit, citoyenne, qu'on ferait le nécessaire, c'est-à-dire qu'on appliquerait la loi, rien de plus, rien de moins. Je t'ai dit de ne point t'inquiéter. Et pourquoi t'inquiéterais-tu? Le tribunal révolutionnaire est toujours juste. Elle pensa se jeter sur lui, le mordre, lui arracher les yeux. Mais, sentant qu'elle achèverait de perdre Fortuné Chassagne, elle s'enfuit et courut enlever dans sa mansarde la robe souillée d'Élodie. Et là, seule, elle hurla toute la nuit de rage et de douleur. Le lendemain, étant retournée au Luxembourg, elle trouva le jardin occupé par des gendarmes qui chassaient les femmes et les enfants. Des sentinelles, placées dans les allées, empêchait les passants de communiquer avec les détenus. La jeune mère, qui venait chaque jour portant son enfant dans ses bras, dit à Julie qu'on parlait de conspiration dans les prisons et qu'on le reprochait aux femmes de se réunir dans le jardin pour émouvoir le peuple en faveur des aristocrates et des traîtres. Chapitre 22. Une montagne s'est élevée subitement dans le jardin des Tuileries. Le ciel est sans nuages. Maximilien marche devant ses collègues en habit bleu, en culotte jaune, ayant à la main un bouquet d'épis, de bluets, de coquelicots. Il gravit la montagne et annonce le dieu de Jean-Jacques à la République en tendrie. Ô pureté, ô douceur, ô foi, ô simplicité antique, ô larmes de pitié, ô rosée féconde, ô clémence, ô fraternité humaine. En vain l'athéisme dresse encore sa face hideuse. Maximilien saisit une torche. Les flammes dévorent le monstre et la sagesse apparaît, d'une main montrant le ciel et de l'autre tenant une couronne d'étoiles. Sur l'estrade, dressée contre le palais des Tuileries, Évariste, au milieu de la foule émue, verse de douces larmes et rend grâces à Dieu. Il voit s'ouvrir une ère de félicité. Il soupire. Enfin, nous serons heureux, purs, innocents, si les scélérats le permettent. Hélas, les scélérats ne l'ont pas permis. Il faut encore des supplices. Il faut encore verser les flots de sang impur. 3 jours après la fête de la Nouvelle Alliance et la réconciliation du ciel et de la terre, la Convention promulgue la loi de Prairial, qui supprime, avec une sorte de bonhomie terrible, toutes les formes traditionnelles de la loi, tout ce qui a été conçu depuis le temps des Romains équitable pour la sauvegarde de l'innocence soupçonnée. Plus d'instruction, plus d'interrogatoire, plus de témoins, plus de défenseurs. L'amour de la patrie supplée à tout. L'accusé, qui porte renfermé en lui son crime ou son innocence, passe muet devant le juré patriote. Et c'est dans ce temps qu'il faut discerner en causes parfois difficiles, souvent chargées et obscurcies. Comment juger maintenant? Comment reconnaître en un instant l'honnête homme et le scélérat, le patriote et l'ennemi de la patrie? Après un moment de trouble, le gamelin a compris ses nouveaux devoirs et s'accommoda à ses nouvelles fonctions. Il reconnaissait dans l'abréviation de la procédure les vrais caractères de cette justice salutaire et terrible, dont les ministres n'étaient point des chats fourrés et pesant à loisir le pour et le contre dans leur gothique balance, mais des sans-culottes jugeant par illumination patriotique et voyant tout dans un éclair. Alors que les garanties, les précautions eussent tout perdu, les mouvements d'un cœur droit sauvaient tout. Il fallait suivre les impulsions de la nature, cette bonne mère qui ne se trompe jamais. Il fallait juger avec le cœur, et Gamelin faisait des invocations aux mânes de Jean-Jacques. Homme vertueux, inspire-moi, avec l'amour des hommes, l'ardeur de les régénérer. Ses collègues, pour la plupart, sentaient comme lui. C'était surtout des simples. Et quand les formes furent simplifiées, ils se trouvèrent à leur aise. La justice abrégée les contentait. Rien dans sa marche accélérée ne les troublait plus. Ils s'enquéraient seulement des opinions des accusés, ne concevant pas qu'on pût, sans méchanceté, penser autrement qu'eux. Comme ils croyaient posséder la vérité, la sagesse, le souverain bien, ils attribuaient à leurs adversaires l'erreur et le mal. Ils se sentaient forts, ils voyaient Dieu. Ils voyaient Dieu, ces jurés du tribunal révolutionnaire. L'être suprême, reconnu par Maximilien, les inondait de ses flammes. Ils aimaient, ils croyaient. Le fauteuil de l'accusé avait été remplacé par une vaste estrade pouvant contenir 50 individus. On ne procédait plus que par fournée. L'accusateur public réunissait dans une même affaire et inculpait comme complice des gens qui, souvent au tribunal, se rencontraient pour la première fois. Le tribunal jugea avec les facilités terribles de la loi de Prairial ces prétendues conspirations des prisons, qui, succédant aux proscriptions des dantonistes de la commune, s'y rattachaient par les artifices d'une pensée subtile. Pour qu'on y reconnût en effet les deux caractères essentiels à un complot fomenté avec l'or de l'étranger contre la République, la modération intempestive et l'exagération calculée, pour qu'on y vit encore le crime daltoniste et le crime évertiste, on y avait mis deux têtes opposées, deux têtes de femmes, la veuve de Camille, cette aimable Lucille, et la veuve de l'évertiste Montereau, déesse d'un jour et joyeuse commère. Toutes deux avaient été enfermées par symétrie dans la même prison, où elles avaient pleuré ensemble sur le même banc de pierre. Toutes deux avaient, par symétrie, monté sur l'échafaud. Symbole trop ingénieux, chef-d'œuvre d'équilibre imaginé, sans doute par une âme de procureur et dont on faisait honneur à Maximilien. On rapportait à ce représentant du peuple tous les événements heureux ou malheureux qui s'accomplissaient dans la République, les lois, les mœurs, le cours des saisons, les récoltes, les maladies, injustices méritées car cet homme menu, propret, chétif à face de chat, était puissant sur le peuple. Le tribunal expédiait ce jour-là une partie de la grande conspiration des prisons, une trentaine de conspirateurs du Luxembourg, captifs très soumis, mais royalistes ou fédéralistes très prononcés. L'accusation reposait tout entière sur le témoignage d'un seul délateur. Les jurés ne savaient pas un mot de l'affaire. Ils ignoraient jusqu'au nom des conspirateurs. Gamelin, en jetant les yeux sur le banc des accusés, reconnut parmi eux Fortuné Chassagne. L'amant de Julie, amaigri par une longue captivité, pâle, les traits durcis par la lumière crue qui baignait la salle, gardait encore quelques grâces et quelques fiertés. Ses regards rencontrèrent ceux de Gamelin et se chargèrent de mépris. Gamelin, possédé d'une fureur tranquille, se leva, demanda la parole, et les yeux fixés sur le buste de Brutus l'Ancien, qui dominait le tribunal. « Citoyen président, dit-il, bien qu'il puisse exister entre un des accusés et moi des liens qui, s'ils étaient déclarés, seraient des liens d'alliance, je déclare ne me point récuser. Les deux Brutus ne se récusèrent pas quand, pour le salut de la République ou la cause de la liberté, il leur fallut condamner le fils, frapper un père adoptif. Il sera assis. Voilà un beau scélérat, murmura Chassagne entre ses dents. Le public restait froid, soit qu'il fût enfin là des caractères sublimes, soit que Gamelin eût triomphé trop facilement des sentiments naturels. « Citoyen Gamelin, dit le président, au terme de la loi, toute récusation doit être formulée par écrit dans les 24 heures avant l'ouverture des débats. Au reste, il n'a pas lieu de te récuser, un juré patriote est au-dessus des passions. » Chaque accusé fut interrogé pendant 3 ou 4 minutes. Le réquisitoire conclut de la peine de mort pour tous. Les jurés la votèrent d'une parole, d'un signe de tête et par acclamation. Quand ce fut le tour de Gamelin d'opiner, « Tous les accusés sont convaincus, dit-il, et la loi est formelle. » Tandis qu'il descendait l'escalier du palais, un jeune homme vêtu d'un carrick vert bouteille et qui semblait âgé de 17 ou 18 ans, l'arrêta brusquement au passage. Il portait un chapeau rond rejeté en arrière et dont les bords faisaient à sa belle tête pâle une auréole noire. Dressé devant le juré, il lui cria, terrible de colère et de désespoir, « Scélérat, monstre, assassin, frappe-moi, lâche, je suis une femme. Fais-moi arrêter, fais-moi guillotiner, Caïn, je suis ta sœur. » et Jury lui cracha au visage. La foule des tricoteuses et des sans-culottes se relâchait alors de sa vengeance révolutionnaire. Son ardeur civique était bien attiédie. Il y eut autour de Gamelin et de son agresseur que des mouvements incertains et confus. Julie fendit l'attroupement et disparut dans le crépuscule. Évariste Gamelin était là et ne pouvait se reposer. 20 fois dans la nuit, il se réveillait en sursaut d'un sommeil plein de cauchemars. C'était seulement dans la chambre bleue, entre les bras d'Élodie, qu'il pouvait dormir quelques heures. Il parlait et criait en dormant et la réveillait, mais elle ne pouvait comprendre ses paroles. Un matin, après une nuit où il avait vu les Euménides, il se réveilla brisé d'épouvante et faible comme un enfant. L'aube traversait les rideaux de la chambre de ses flèches livides. Les cheveux d'Évariste, mêlés sur son front, lui couvraient les yeux d'un voile noir. Élodie, au chevet du lit, écartait doucement les mèches farouches. Elle le regardait cette fois avec une tendresse de sœur et de son mouchoir essuyait la sueur glacée sur le front du malheureux. Alors il se rappela cette belle scène de l'Oreste d'Euripide dont il avait ébauché un tableau qui, s'il avait pu l'achever, aurait été son chef-d'œuvre. La scène où la malheureuse Électre essuie l'écume qui souille la bouche de son frère. Il croyait entendre aussi Élodie dire d'une voix douce « Écoute-moi, mon frère chéri, pendant que les furies te laissent mettre de ta raison. » Et il songeait « Et pourtant, je ne suis point parricide. Au contraire, c'est par piété filiale que j'ai versé le sang impur des ennemis de ma patrie. » Chapitre 24. On n'en finissait pas avec la conspiration des prisons. 49 accusés remplissaient les gradins. Maurice Brotteau occupait la droite du plus haut degré, la place d'honneur. Il était vêtu de sa redingote puce, qu'il avait soigneusement brossée la veille, et reprisée à l'endroit de la poche que le petit Lucrèce, à la longue, avait usée. À son côté, la femme Rochemaure, peinte, fardée, écarlatante, horrible. On avait placé le père Longuemare entre elle et la fille Athénaïs, qui avait retrouvé aux Madelonnettes la fraîcheur de l'adolescence. Les gendarmes entassaient sur les gradins des gens que ceux-ci ne connaissaient pas et qui peut-être ne se connaissaient pas entre eux, tous complices cependant, parlementaires, journaliers, ci-devant nobles, bourgeois et bourgeoises. La citoyenne Rochemaure aperçut Gamelin au banc des jurés. Bien qu'il n'eût pas répondu à ses lettres pressantes, à ses messages répétés, elle espéra en lui, lui envoya un regard suppliant et s'efforça d'être pour lui belle et touchante. Mais le regard froid du jeune magistrat lui ôta toute illusion. Le greffier lut l'acte d'accusation, qui, bref, sur chacun des accusés, était long à cause de leur nombre. Il exposait à grands traits le complot ourdi dans les prisons pour noyer la République dans le sang des représentants de la nation et du peuple de Paris, et faisant la part de chacun, il disait « L'un des plus pernicieux auteurs de cette abominable conjuration est le nommé Brotteau, ci-devant des îlettes, receveur des finances sous le tyran. Cet individu, qui se faisait remarquer même au temps de la tyrannie par sa conduite dissolue, est une preuve certaine que le libertinage et les mauvais mœurs sont les plus grands ennemis de la liberté et du bonheur des peuples. En effet, après avoir dilapidé les finances publiques et épuisé en débauche une notable partie de la substance du peuple, cet individu s'associa avec son ancienne concubine, la femme Rochemaure, pour correspondre avec les émigrés et informer traîtreusement la faction de l'étranger de l'état de nos finances, des mouvements de nos troupes et des fluctuations de l'opinion. Brotteau, qui à cette époque, période de sa misérable existence, vivait en concubinage avec une prostituée qu'il avait ramassée dans la boue de la rue Fromenteau, la fille Athénaïs, la gagna facilement à ses desseins et rempla alors à fomenter la contre-révolution par des cris impudents et des excitations indécentes. Quelques propos de cet homme néfaste vous indiqueront clairement sans idées abjectes et son but pernicieux. Parlant du tribunal patriotique, appelé aujourd'hui à le châtier, il disait insolemment: le tribunal révolutionnaire ressemble à une pièce de Guillaume Shakespeare qui mêle aux scènes les plus sanglantes les bouffonneries les plus triviales. Sans cesse, il préconisait l'athéisme comme le moyen le plus sûr d'avilir le peuple et de le rejeter dans l'immoralité. Dans sa prison de la Conciergerie, où il était détenu, il déplorait à l'égal des pires calamités les victoires de nos vaillantes armées et s'efforçait de jeter la suspicion sur les généraux les plus patriotes en leur prêtant des desseins tyrannicides. Attendez-vous, disait-il dans un langage atroce, que la plume hésite à reproduire. Attendez-vous à ce qu'un jour un de ces porteurs d'épée à qui vous devez votre salut vous avale tous comme la grue de la fable avale les grenouilles. Et l'acte d'accusation poursuivait de la sorte. La femme Rochemaure, ci-devant noble concubine de Brotteau, n'est pas moins coupable que lui. Non seulement elle correspondait avec l'étranger et était stipendiée par Pitt lui-même, mais associée à des hommes corrompus, tels que Julien de Toulouse et Chabot, en relation avec la ci-devant baron de Batz, elle inventait, de concert avec ce scélérat, toutes sortes de machinations pour faire baisser les actions de la Compagnie des Indes, les acheter à vil prix et à relever le cours par des machinations opposées aux premières, frustrant ainsi la fortune privée et la fortune publique. Incarcérée à la Bourbe et aux Madelonnettes, elle n'a pas cessé de conspirer dans sa prison, d'agioter et de se livrer à des tentatives de corruption à l'égard des juges et des jurés. Louis Longuemare, ex-noble, ex-capucin, s'était depuis longtemps essayé à l'infamie et au crime avant d'accomplir les actes de trahison dont il a à répondre ici. Vivant dans une honteuse promiscuité avec la fille Guargot, dite Athénaïs, sous le toit même de Brotteau, il est le complice de cette fille et de ce ci-devant noble. Durant sa captivité à la Conciergerie, il n'a pas cessé un seul jour d'écrire des libellés attentatoires à la liberté et à la paix publique. Il est juste de dire, à propos de Marthe Gorcou, dite Athénaïs, que les filles prostituées sont le plus grand fléau des mœurs publiques, auxquelles elles insultent et l'opprobre de la société qu'elles flétrissent. Mais à quoi bon s'étendre sur des crimes répugnants que l'accusé avoue sans pudeur? L'accusation passait ensuite en revue les 54 autres prévenus que ni Brotteau, ni le père Longuemare, ni la citoyenne Rochemaure ne connaissaient, sinon pour en avoir vu plusieurs dans les prisons et qui était enveloppé avec les premiers dans cette conjuration exécrable dont les annales des peuples ne fournissent point d'exemple. L'accusation concluait à la peine de mort pour tous les inculpés. Brotteau fut interrogé le premier. Tu as conspiré? Non, je n'ai pas conspiré. Tout est faux dans l'acte d'accusation que je viens d'entendre. Tu vois? Tu conspires encore en ce moment contre le tribunal. Et le président passa à la femme Rochemaure, qui répondit par des protestations désespérées, des larmes et des arguties. Le père Longuemare se remettait entièrement à la volonté de Dieu. Il n'avait même pas apporté sa défense écrite. À toutes les questions qui lui furent posées, il répondit avec un esprit de renoncement. Toutefois, quand le président le traita de capucin, le vieil homme en lui se ranima. Je ne suis pas capucin, dit-il, je suis prêtre et religieux de l'ordre des Barnabites. C'est la même chose, répliqua le président avec bonhomie. Le père Longuemare le regarda indigné. On ne peut concevoir d'erreur plus étrange, fit-il, que de confondre avec un capucin un religieux de cet ordre des Barnabites qui tient ses constitutions de l'apôtre saint Paul lui-même. Les éclats de rire et les huées éclatèrent dans l'assistance. Et le père Longuemare, prenant ses moqueries pour des signes de dénégation, proclamait qu'il mourrait membre de cet ordre de Saint-Barnabite dont il portait l'habit dans son cœur. « Reconnais-tu, demanda le président, avoir conspiré avec la fille Gorgour, dite Athénaïs, qui t'accordait ses méprisables faveurs ?» À cette question, le père Longuemare leva vers le ciel un regard douloureux et répondit par un silence qui exprimait la surprise d'une âme candide et la gaieté et la gravité d'un religieux qui craint de prononcer les vaines paroles. « Figorgoute, demanda le président à la jeune Athénaïs, reconnais-tu avoir conspiré avec Broteau ?» Elle répondit doucement, « Monsieur Broteau, à ma connaissance, n'a fait que du bien. C'est un homme comme il en faudrait beaucoup et comme il n'y en a pas de meilleur. Ceux qui disent le contraire se trompent. C'est tout ce que j'ai à dire. » Le président lui demanda si elle reconnaissait avoir vécu en concubinage avec Broteau. Il fallut lui expliquer ce terme qu'elle n'entendait pas. Mais dès qu'il eut compris de quoi il s'agissait, elle répondit qu'il n'aurait tenu qu'à lui, mais qu'il ne lui avait pas demandé. On rit dans les tribunes, et le président menaça à la fille Gorcoute de la mettre hors des débats si elle répondait encore avec un tel cynisme. Alors elle l'appela cafard, face de carême, connard, et vomit sur lui, sur les juges et les jurés, des potées d'injures, jusqu'à ce que les gendarmes l'eussent tiré de son banc et emmené hors de la salle. Le président interrogea ensuite brièvement les autres accusés dans l'ordre où ils étaient placés sur les gradins. Un nommé Navette répondit qu'il n'avait pu conspirer dans une prison, où il n'avait séjourné que 4 jours. Le président fit cette observation que la réponse était à considérer et qu'il pria les citoyens jurés d'en tenir compte. Un certain Bellier répondit de même et le président adressa en sa faveur la même observation au jury. On interpréta cette bienveillance du juge comme l'effet d'une louable équité ou comme un salaire dû à la délation. Le substitut de l'accusateur public prit la parole. Il ne fit qu'amplifier l'acte d'accusation et posa ses questions. Est-il constant que Maurice Broteau, Louise Rochemaure, Louis Longuemare, Marie Gorgoud, dite Athénaïs, Eugène Rocher, Pierre Guilloton, Fabulet, Marcine Descourtis, etc., etc., ont formé une conjuration dont les moyens sont l'assassinat, la famine, la fabrication de faux assignats et de fausses monnaies, la dépravation de la morale et de l'esprit public, le soulèvement des prisons, le but, la guerre civile, la dissolution de la représentation nationale, le rétablissement de la royauté. Les jurés se retirèrent dans la chambre des délibérations. Ils se prononcèrent à l'unanimité pour l'affirmative en ce qui concernait tous les accusés, à l'exception des dénommés Navette et Bellier, que le président et après lui l'accusateur public avaient mis en quelque sorte hors de cause. Gamelin modifia son verdict en ces termes. La culpabilité des accusés crève les yeux. Leur châtiment importe au salut de la nation. Ils doivent eux-mêmes souhaiter leur supplice comme le seul moyen d'expier leur crime. Le président prononça la sentence en l'absence de ceux qu'elle concernait. Dans ces grandes journées, contrairement à ce qu'exigeait la loi, on ne rappelait pas les condamnés pour leur lire leur arrêt, sans doute parce qu'on craignait le désespoir d'un si grand nombre de personnes. Vaine crainte, tant la soumission des victimes était grande et générale. Le greffier descendit lire le verdict, qui qui fut entendu dans le silence et cette tranquillité qui faisait comparer les condamnés du prairial à des arbres mis en coupe. La citoyenne Rochemaure se déclara enceinte. Un chirurgien, qui était en même temps juré, fut commis pour la visiter. On la porta évanouie dans son cachot. « Ah !» soupira le père Longuemare. « Ces juges sont des hommes bien dignes de pitié. L'état de leur âme est vraiment déplorable. Ils brouillent tout et confondent un Barnabite avec un Franciscain. » L'exécution devait avoir lieu le jour même à la barrière du trône renversé. Les condamnés, la toilette faite, les cheveux coupés, la chemise échancrée, attendirent le bourreau, parqué comme un bétail dans la petite salle séparée du greffe par une cloison vitrée. À l'arrivée de l'exécuteur et de ses valets, Brotteau, qui lisait tranquillement son Lucrèce, mit le signet à la page commencée, ferma le livre, le fourra dans la poche de sa redingote et dit au Barnabite « Mon révérend père, ce dont j'enrage, c'est que je ne vous persuaderai pas. Nous allons dormir tous deux notre dernier sommeil et je ne pourrai pas vous tirer par la manche et vous réveiller pour vous dire « Vous voyez, vous n'avez plus ni sentiment ni connaissance, vous êtes inanimé. Ce qui suit la vie est comme ce qui la précède. » Il voulut sourire, mais une atroce douleur lui saisit le cœur et les entrailles, et il fut prêt de défaillir. Il reprit toutefois, « Mon père, je vous laisse voir ma faiblesse. J'aime la vie et ne la quitte point sans regret. »« Monsieur, répondit le moine avec douceur, prenez garde que vous êtes plus brave que moi et que pourtant la mort vous trouble davantage. » Que veut dire cela, sinon que je vois la lumière que vous ne voyez pas encore? Ce pourrait être aussi, dit Brotteau, que je regrette la vie parce que j'en ai mieux joui que vous, qui l'avez rendue aussi semblable que possible à la mort. Monsieur, dit le père Longuemare en pâlissant, cette heure est grave. Que Dieu m'assiste. Oh, il est certain que nous mourrons sans secours. Il faut que j'aie jadis reçu les sacrements avec tiédeur et d'un cœur ingrat pour que le ciel me les refuse aujourd'hui, que j'en ai si pressant besoin. » Les charrettes attendaient. On y entassa les condamnés, les mains liées. La femme Rochemaure, dont la grossesse n'avait pas été reconnue par le chirurgien, fut hissée dans un des tombereaux. Elle retrouva un peu de son énergie pour observer la foule des spectateurs, espérant contre toute espérance y rencontrer des sauveurs. Ses yeux imploraient. L'affluence était moindre qu'autrefois et les mouvements des esprits moins violents. Quelques femmes seulement criaient « à mort » ou raillaient ce qui allait mourir. Les hommes haussaient les épaules, détournaient la tête et se taisaient, soit par prudence, soit par respect des lois. Il eut un frisson dans la foule quand Athénaïs passa le guichet. Elle avait l'air d'un enfant. Elle s'inclina devant le religieux. « Monsieur le curé, lui dit-elle, donnez-moi l'absolution. » Le père Longuemare murmura gravement les paroles sacramentelles et dit « Ma fille, vous êtes tombé dans de grands désordres, mais que ne puis-je présenter au Seigneur un cœur aussi simple que le vôtre ?» Elle monta, légère, dans la charrette. Et là, le buste droit, sa tête d'enfant fièrement dressée, elle s'écria « Vive le roi !» Elle fit un petit signe à Brotteau pour lui montrer qu'il y avait de la place à côté d'elle. Brotteau aida le Barnabite à monter et vint se placer entre le religieux et l'innocente fille. « Monsieur, dit le père Longuemare au philosophe épicurien, je vous demande une grâce. Ce Dieu auquel vous ne croyez pas encore, priez-le pour moi. Il n'est pas sûr que vous ne soyez pas plus près de lui que je ne le suis moi-même. Un moment peut décider. Pour que vous deveniez l'enfant privilégié du Seigneur, il ne faut qu'une seconde, monsieur. Priez pour moi. Tandis que les roues tournaient en grinçant sur le pavé du long faubourg, le religieux récitait du cœur et des lèvres les prières des agonisants. Brotteau se remémorait les vers du poète de la nature. Sic ubi non erimus. Tout lié qu'il était et secoué dans l'infâme charrette, il gardait une attitude tranquille et comme un souci de ses aises. À son côté, Athénaïs, fière de mourir ainsi que la reine de France, jetait sur la foule un regard hautain, et le vieux traitant, contemplant en connaisseur la gorge blanche de la jeune femme, regrettait la lumière du jour. Chapitre 25. Pendant que les charrettes roulaient entourées de gendarmes vers la place du trône renversé, menant à la mort Brotteau et ses complices, Évariste était assis, pensif, sur un banc du jardin des Tuileries. Il attendait Élodie. Le soleil, penchant à l'horizon, criblait de ses flèches enflammées les marronniers touffus. À la grille du jardin, la renommée, sur son cheval ailé, embouchait sa trompette éternelle. Les porteurs de journaux criaient la grande victoire de Fleurus. Oui, songeait Gamelin, la victoire est à nous. Pouf, nous avons mis le prix. Il voyait les mauvais généraux traîner leurs ombres, condamnés dans la poussière sanglante de cette place de la Révolution où ils avaient péri. Et il sourit fièrement, songeant que, sans les sévérités dont il avait eu sa part, les chevaux autrichiens mordraient aujourd'hui les cordes de ses arbres. Il s'écriait en lui-même: Terreur salutaire, ô sainte terreur! L'année passée, à pareille époque, nous avions pour défenseurs d'héroïques vaincus en guenilles. Le sol de la patrie était envahi, les deux tiers des départements en révolte. Maintenant, nos armées, bien équipées, bien instruites, commandées par d'habiles généraux, prennent l'offensive, prêtes à porter la liberté par le monde. La paix règne sur tout le territoire de la République. Terreur salutaire, ô sainte terreur, aimable guillotine! L'année passée, à pareille époque, la République était déchirée par les factions. L'hydre du fédéralisme menaçait de la dévorer. Maintenant, l'unité jacobine étant sur l'Empire sa force et sa sagesse. Cependant, il était sombre. Un pli profond lui barrait le front. Sa bouche était amère, il songeait. Nous disions: vaincre ou mourir. Nous nous trompions. C'est vaincre et mourir qu'il fallait dire. Il regardait autour de lui. Les enfants faisaient des tas de sable. Les citoyennes, sur leurs chaises de bois au pied des arbres, brodaient ou cousaient. Les passants, en habits et culottes d'une élégance étrange, songeant à leurs affaires ou à leurs plaisirs, regagnaient leur demeure. Les Gamelins se sentaient seuls parmi eux. Ils n'étaient ni leurs compatriotes ni leurs contemporains. Et que s'était-il donc passé? Comment, à l'enthousiasme des belles années, avait succédé l'indifférence, la fatigue et peut-être le dégoût? Visiblement, ces gens-là ne voulaient plus entendre parler du tribunal révolutionnaire et se détournaient de la guillotine. Devenu trop importune sur la place de la Révolution, on l'avait renvoyé au bout du faubourg Saint-Antoine. Là même, au passage des charrettes, on murmurait. Et quelquefois, dit-on, avait crié: Assez! Assez! Quand il y avait encore des traîtres, des conspirateurs. Assez! Quand il fallait renouveler les comités, épurer la convention. Assez! Quand des scélérats déshonoraient la représentation nationale. Assez! Quand on méditait jusque dans le tribunal révolutionnaire la perte du juste. Car, chose horrible à penser et trop véritable, Fouquier lui-même ourdissait des trames, et c'était pour perdre Maximilien, qui lui avait immolé pompeusement 57 victimes traînées à la mort dans la chemise rouge des parricides. Mais à quelle pitié criminelle cédait la France! Il fallait donc la sauver malgré elle, et lorsqu'elle criait grâce, se boucher les oreilles et frapper. Hélas, les destins l'avaient résolu. La patrie maudissait ses sauveurs. Bon, qu'elle nous maudisse et qu'elle soit sauvée. C'est trop peu que d'immoler des victimes obscures, des aristocrates, des financiers, des publicistes, des poètes, un Lavoisier, un Roucher, un André Chénier. Il faut frapper ce scélérat tout-puissant, qui les mains pleines d'or et dégoûtantes de sang prépare la ruine de la montagne, les Fouchés, les Taliens, les Revers, les Carriers, les Bourbons. Il faut délivrer l'État de tous ses ennemis. Si Hébert avait triomphé, la Convention était renversée, la République roulait aux abîmes. Si Desmoulins et Danton avaient triomphé, la Convention, sans vertu, livrait la République aux aristocrates, aux agioteurs et aux généraux. Si les Taliens, les Fouchés, monstres gorgés de sang et de rapines, triomphent, la France se noie dans le crime et l'infamie. Tu dors, Robespierre, tandis que des criminels ivres de fureur et d'effroi méditent ta mort et les funérailles de la liberté. Couteau Saint-Just, mais que tardez-vous à dénoncer les complots? Quoi, l'ancien régime, l'État, le monstre royal, assurait son empire en emprisonnant chaque année 400 000 hommes, en empendant 15 000, en enrouant 3 000. Et la République hésiterait encore à sacrifier quelques centaines de têtes à sa sûreté et à sa puissance. Mais noyons-nous dans le sang et sauvons la patrie. Comme il songeait ainsi, Élodie accourut à lui, pâle et défaite.
Évariste, qu'as-tu à me dire? Pourquoi ne pas venir à l'amour peintre dans la chambre bleue? Pourquoi m'as-tu fait venir ici?
Pour te dire un éternel adieu. Elle murmura qu'il était insensé, qu'elle ne pouvait pas comprendre. Il arrêta d'un très petit geste de la main. Élodie, non, je ne puis plus accepter ton amour.
Mais tais-toi, Évariste, tais-toi.
Elle le pria d'aller plus loin. Là, on les observait, on les écoutait. Il fit une vingtaine de pas et poursuivit, très calme. J'ai fait à ma patrie le sacrifice de ma vie et de mon honneur. Je mourrai infâme et n'aurai à te léguer, malheureuse, qu'une mémoire exécrée. Nous aimer, mais est-ce qu'on peut m'aimer encore? Est-ce que je puis aimer? Elle lui dit qu'il était fou, qu'elle l'aimait, qu'elle l'aimerait toujours. Elle fut ardente, sincère, mais elle sentait aussi bien que lui, elle sentait mieux que lui, qu'il avait raison. Et elle se débattait contre l'évidence. Et il reprit. Je ne me reproche rien. Ce que j'ai fait, je le ferai encore. Je me suis fait anathème pour la patrie. Je suis maudit. Je me suis mis hors l'humanité. Je n'y rentrerai jamais. Non, la grande tâche n'est pas finie. Ah, la clémence, le pardon, mais les traîtres pardonnent-ils? Les conspirateurs sont-ils cléments? Les scélérats parricides croissent sans cesse en nombre. Il en sort de dessous terre, il en accourt de toutes nos frontières. De jeunes hommes qui eussent mieux péri dans nos armées, des vieillards, des enfants, des femmes avec les masques de l'innocence, de la pureté et de la grâce. Et quand on les a immolés, on en trouve davantage. Tu vois bien qu'il faut que je renonce à l'amour, à toute joie, à toute douceur de la vie, à la vie elle-même. Il se tut. Faite pour goûter de paisibles jouissances, Élodie, depuis plus d'un jour, s'effrayait de mêler, sous les baisers d'un amant tragique, aux impressions voluptueuses des images sanglantes. Elle ne répondit rien. Évariste but comme un calice amer le silence de la jeune femme.
Tu le vois bien, Élodie, nous sommes précipités. Notre œuvre nous dévore. Nos jours, nos heures sont des années. Oh, j'aurais bientôt vécu un siècle. Vois ce front, est-il d'un amant aimé? Mais Évariste, tu es à moi, je te garde, je ne te rends pas ta liberté. Elle s'exprimait avec l'accent du sacrifice. Il le sentit, oh, elle le sentit elle-même. Élodie, pourras-tu attester un jour que je vécus fidèle à mon devoir, que mon cœur fut droit et mon âme pure, que je n'eus d'autre passion que le bien public, que je t'ai né sensible et tendre? Diras-tu, il fit son devoir? Mais non, tu ne le diras pas. Je ne te demande pas de le dire. Périsse ma mémoire, ma gloire est dans mon cœur, la honte m'environne. Si tu m'aimais, garde sur mon nom un éternel silence. Un enfant de 8 ou 9 ans qui jouait au cerceau se jeta en ce moment dans les jambes de Gamelin. Celui-ci l'éleva brusquement dans ses bras. Enfant, tu grandiras libre, heureux, et tu le devras à l'infâme Gamelin. Je suis atroce pour que tu sois heureux. Je suis cruel pour que tu sois bon. Je suis impitoyable pour que demain tous les Français s'embrassent en versant des larmes de joie. Il le pressa contre sa poitrine. Petit enfant, quand tu seras un homme, tu me devras ton bonheur, ton innocence. Et si jamais tu entends prononcer mon nom, tu l'exécreras. Et il posa à terre l'enfant, qui s'alla jeter épouvanté dans les jupes de sa mère accourue pour le délivrer. Cette jeune mère, qui était jolie et d'une grâce aristocratique, dans sa robe de linon blanc, emmena son petit garçon avec un air de hauteur. Gamelin tourna vers Élodie un regard farouche. « Tu vois, j'ai embrassé cet enfant. Peut-être ferais-je guillotiner sa mère. » Et il s'éloigna à grands pas sous les quinconces. Élodie resta un moment immobile, le regard fixe et baissé. Puis tout à coup, elle s'élança sur les pas de son amant, et furieuse, échevelée, telle qu'une ménade, elle le saisit comme pour le déchirer et lui cria d'une voix étranglée de sang et de larmes. « Eh bien, moi aussi, mon bien-aimé, envoie-moi la guillotine, moi aussi, fais-moi trancher la tête !» Et à l'idée du couteau sur sa nuque, toute sa chair se fondait d'horreur et de volupté. Chapitre 26. Tandis que le soleil de Thermidor se couchait dans une pourpre sanglante, Évariste errait, sombre et soucieux, par les jardins Marbeuf, devenus propriété nationale et fréquentés des Parisiens oisifs. On y prenait de la limonade et des glaces. Il y avait des chevaux de bois et des tirs pour les jeunes patriotes. Sous un arbre, un petit savoyard en guenille, coiffé d'un bonnet noir, faisait danser une marmotte au son aigre de sa vielle. Un homme, jeune encore, svelte, en habit bleu, les cheveux poudrés, accompagné d'un grand chien, s'arrêta pour écouter cette musique agreste. Évariste reconnut Robespierre. Il le retrouvait pâli, amaigri, le visage durci et traversé de plis douloureux. Et il songea. Quelle fatigue et combien de souffrances ont laissé leur empreinte sur son front. Qu'il est pénible de travailler au bonheur des hommes. À quoi songe-t-il en ce moment? Le son de la vieille montagnarde le distrait-il du souci des affaires? Pense-t-il qu'il a fait un pacte avec la mort et que l'heure est proche de l'astenir? Médite-t-il de rentrer en vainqueur dans ce comité de salut public dont il s'est retiré, là, d'y être tenu en échec, avec Couthon et Saint-Just, par une majorité séditieuse? Derrière cette face impénétrable, Quelles espérances s'agitent ou quelles craintes! Pourtant, Maximilien sourit à l'enfant, lui fit d'une voix douce, avec bienveillance, quelques questions sur la vallée, la chaumière, les parents que le pauvre petit avait quittés. Lui jeta une petite pièce d'argent et reprit sa promenade. Après avoir fait quelques pas, il se retourna pour appeler son chien, qui, sentant le rat, montrait les dents à la marmotte hérissée. Mount, mount! Puis il s'enfonça dans les allées sombres. Gamelin, par respect, ne s'approcha pas du promeneur solitaire. Mais contemplant la forme mince qui s'effaçait dans la nuit, il lui adressa cette oraison mentale. « J'ai vu ta tristesse, Maximilien. J'ai compris ta pensée. Ta mélancolie, ta fatigue et jusqu'à cette expression d'effroi empreinte dans tes regards. Tout en toi dit que la terreur s'achève et que la fraternité commence. Français, soyez unis, soyez vertueux, soyez bons. Aimez-vous les uns les autres. Eh bien, je te servirai tes desseins, pour que tu puisses, dans ta sagesse et ta bonté, mettre fin aux escortes civiles, éteindre les haines fratricides, faire du bourreau un jardinier qui ne tranchera plus que les têtes des choux et des laitues. Je préparerai avec mes collègues du tribunal les voies de la clémence, en exterminant les conspirateurs et les traîtres. Nous redoublerons de vigilance et de sévérité. Aucun coupable ne nous échappera, et quand la tête du dernier des ennemis de la République sera tombée sous le couteau, tu pourras être indulgent, sans crime, et faire régner l'innocence et la vertu sur la France, ô père de la patrie. » L'incorruptible était déjà loin. Deux hommes en chapeau rond et culotte de Nankin, dont l'un d'aspect farouche, long et maigre, avait un dragon sur l'œil, et ressemblait à Talien, le croisèrent au tournant d'une allée, lui jetèrent un regard oblique et, feignant de ne point le reconnaître, passèrent. Quand ils furent à une assez grande distance pour n'être pas entendus, ils murmurèrent à voix basse. « Le voilà donc, le roi, le pape, le dieu, car il est dieu, et Catherine Théo est sa prophétesse. » « Dictateur, traître, tyran, il est encore des Brutus. Trempe, scélérat, la roche charpéienne est près du Capitole. » Le chien Brown s'approcha d'eux, ils se turent et hâtèrent le pas.